le journal d'Émilie Mumenthaler.
Bonjour. Il y a 10 ans, la Banque nationale suisse décidait, à la surprise générale, de lever le taux plancher du franc par rapport à l'euro. La catastrophe économique redoutée n'a pas eu lieu, mais les entreprises de la région ont dû encaisser le choc. Un roulement dans les normes au sein du Parlement jurassien. 13 députés ont quitté le législatif cantonal depuis le début de cette législature 2020-2025. Le PLR enregistre proportionnellement le plus de mouvements alors que personne n'a bougé à l'UDC et au CSPOP. C'est déjà fini pour Stan Wawrinka, l'Open d'Australie. Pour la 3e année consécutive, le joueur de tennis vaudois a été éliminé d'entrée lors du premier Grand Chelem de l'année. Il a été battu en 4-7 par l'Australien Lorenzo Sonego aujourd'hui à Melbourne. Météo, la journée restera bien ensoleillée sur la région. Les températures sont froides avec un retour relatif sur les hauteurs. Il fera 1 degré au mieux en plaine, 4 à 1000 mètres. C'était il y a 10 ans, le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse décidait de lever le taux plancher du franc par rapport à l'euro. Cette mesure, annoncée par surprise, a provoqué une onde de choc pour les entreprises du pays et du Jura. L'économie a dû s'adapter à cette situation et doit toujours faire face aujourd'hui à l'appréciation du franc. L'éclairage du directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, Pierre Alabéret.
Cet abandon du taux plancher avait été vécu comme un choc, un cataclysme dans les entreprises avec un renchérissement marqué du franc suisse et subitement des coûts de production qui augmentent de 20% peut-être hein, pour certaines entreprises exportatrices. Alors, elles ont dû s'adapter, en fait, face à cette situation. Elles n'ont pas eu le choix. Et comment elles se sont adaptées? Eh bien, elles se sont adaptées en se concentrant de plus en plus sur des niches, sur de la haute valeur ajoutée. Elles ont dû aussi assez rapidement rationaliser leur processus de travail en introduisant par exemple de la robotisation. Certaines ont créé des filiales à l'étranger aussi pour produire à moindre coût sur des grands marchés, chaque fois que c'était possible. Et puis il y en a aussi qui ont traversé une phase très difficile, hein, qui ont dû vraiment faire le dos rond, qui ont souffert et puis qui ont peut-être dû aussi abandonner certains types de production parce que tout à coup celles-ci n'étaient plus possibles en Suisse à cause de la valeur du franc.
Est-ce qu'on peut dire que globalement, elles s'en sont bien sorties, ces entreprises jurassiennes ?
Globalement, oui, mais il y a eu effectivement aussi de la casse. Hein. Comme je le dis, certaines productions ont dû être abandonnées. Maintenant, 10 ans après, je dirais que le problème du franc suisse demeure et il est lié non seulement à la qualité du site suisse de production, qui fait que ça, c'est plutôt positif. On est dans un pays qui fonctionne bien et du coup, notre monnaie est forte. Mais c'est lié aussi à la valeur refuge du franc quand même. Et ça, ça reste quand même un problème. Ça veut dire concrètement que chaque fois qu'il y a une crise géopolitique dans le monde, qu'il y a une guerre, qu'il y a des tensions quelque part, eh bien, mécaniquement, le franc suisse prend de la valeur. Et quand on voit aujourd'hui que le franc suisse, par rapport à l'euro, est à peu près à 90 centimes, on pense même qu'il va descendre en dessous de 90 centimes alors qu'il était à 1,50 francs il n'y a pas si longtemps. Il faut se rendre compte hein, quand même ce que ça représente pour les entreprises qui exportent des taux de change pareils. Donc pour nos entreprises, c'est un souci constant. C'est une nécessité de s'adapter en permanence et puis avec toujours cet œil quand même rivé sur l'évolution parce que si notre franc devait continuer de prendre indéfiniment de la valeur, eh bien ça pourrait quand même mettre en péril la place industrielle suisse et il faut vraiment qu'on soit attentif à ça.
Le directeur de la CCJ, Pierre Alabéret, répondait à Raphaël Chalverat. Il y a eu du roulement au sein du législatif cantonal. Durant la législature 2020-2025 en cours, qui s'achèvera à la fin de l'année, 13 départs ont déjà été enregistrés. Thomas Nagy s'est plongé dans les statistiques.
Il y a eu du mouvement dans tous les partis, à l'exception de l'UDC et du CSPOP. C'est au centre qu'il y a eu le plus de départs. À ce jour, on en compte 4 sur les 15 députés que compte le parti. Un chiffre évidemment gonflé par la récente élection de Stéphane Thuria au sein du gouvernement. Proportionnellement, c'est le PLR qui enregistre les mouvements les plus importants puisque 3 députés sur 8 ont quitté leur poste en cours de législature. Même si, d'un point de vue purement mathématique, c'est le PVL qui enregistre le mouvement le plus fort statistiquement avec un départ pour 2 députés. Et à l'inverse, c'est au Parti socialiste que les rangs sont les plus stables, puisqu'il n'y a eu qu'un seul départ sur les 13 députés que compte le parti.
Ces 13 départs restent dans la norme de ce qu'on avait pu observer lors de la précédente législature, où une 20aine de députés avaient quitté leurs fonctions. Des démissions supplémentaires pourraient encore survenir en cours d'année, avant les élections cantonales de cet automne. et Daniel Logos qui traduit ses fonctions de juge cantonal le 31 août prochain. Le magistrat a informé le bureau du Parlement qu'il prendrait sa retraite à ce moment-là, selon une information transmise aujourd'hui. Il aura officié durant 37 ans au sein de la justice jurassienne. De plus en plus de réfugiés venus d'Ukraine ont trouvé un travail en Suisse. Le taux s'élevait à près de 30% fin 2024. Le but affiché par le Conseil fédéral, soit 40%, n'est toutefois pas encore atteint. C'est ce qui ressort des chiffres présentés aujourd'hui par la Confédération et les cantons. L'optimisme est toutefois de mise. Les représentants de la Confédération estiment que la situation des réfugiés ukrainiens s'est globalement améliorée sur le marché du travail. Les plateformes en ligne disposent d'un énorme pouvoir, autant sur le marché que sur l'opinion, et c'est préoccupant en démocratie. Tel est le constat de la Commission fédérale des médias. Elle présentait un rapport ce matin à Berne, proposant aux autorités d'imaginer une stratégie globale pour encadrer l'hyperprésence des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et des moteurs de recherche. Les plateformes pilotées par les GAFAM, soit Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ont-elles pris le pouvoir, le vice-président de la Commission des médias, François Besançon.
Difficile de répondre de cette façon-là, mais on peut peut-être aborder la réponse sur deux points. D'abord, tout le monde sait aujourd'hui que les plateformes jouent un rôle central dans la formation de l'opinion. C'est notamment une source d'information tout à fait essentielle pour les publics jeunes. Donc dans ce sens-là, c'est un acteur tout à fait majeur. Le deuxième point qui est très important, c'est de constater qu'elle joue aujourd'hui un rôle, on dit en anglais « gatekeeper », qui était la fonction centrale des médias traditionnels pendant des décennies. Et aujourd'hui, qui joue ce rôle-là? Ce sont les plateformes dans un environnement à trois acteurs. Le fournisseur de contenu, l'utilisateur de contenu et le marché publicitaire. La taille du pouvoir de marché est absolument sans commune mesure avec le pouvoir de marché des médias traditionnels.
Mais est-ce qu'il faudrait réguler ces plateformes en ligne? On retrouve François Besançon.
Réguler n'est pas forcément le beau mot. La régulation est un des aspects. Vous avez un certain nombre de dispositions qui s'appliquent aux médias traditionnels sur la concurrence, qui empêchent le regroupement tout à fait massif à l'échelle d'un pays, de tous les médias dans une seule structure. On ne parle pas de régulation, mais on parle de mise en place de conditions cadres qui doivent pouvoir garantir quoi ? Garantir la même chose que ce qu'on souhaite de la part du paysage des médias traditionnels ? La diversité, la pluralité. Voilà des éléments qui sont tout à fait essentiels. À cela, on ajoute l'indépendance, la transparence.
Un dossier de notre correspondant à Berne, Serge Hubin. La commission des médias propose également aux autorités de renforcer les compétences médiatiques et numériques des Suisses afin qu'ils fassent une utilisation critique et réfléchie des contenus des plateformes numériques. De l'actualité étrangère, le renforcement des vents menace à nouveau d'aggraver les incendies qui frappent Los Angeles depuis près d'une semaine. Le phénomène pourrait attiser les flammes et augmenter le risque de nouveaux départs de feu. Les efforts déployés par des milliers de pompiers ont néanmoins permis de circonscrire en partie les deux principaux brasiers lors des derniers jours. Les incendies ont fait jusqu'à présent 24 décès dans la métropole américaine. Un dernier cycle de pourparlers en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas à Gaza doit débuter aujourd'hui au Qatar. C'est ce qu'a affirmé une source proche des négociations. Le Qatar, les États-Unis et l'Égypte tentent depuis des mois de parvenir à un accord pour faire cesser les hostilités et obtenir la libération des otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Les États-Unis estiment qu'une entente pourrait être conclue dans la semaine. Sur une autre note à présent, de musique, c'est un chapitre qui se ferme pour Pegasus. Le groupe biennois a annoncé hier le départ de son bassiste Gabriel Spani et de son guitariste Simon Spar. Une envie d'autre chose après une vingtaine d'années de tournée aux quatre coins du monde. Cette séparation intervient au moment de lancer leur septième album Twisted Hearts Club, le dernier pour les quatre membres de Pegasus. Au-delà d'être un groupe, ils lient surtout une grande amitié. Elle ne risque pas de pâtir de la situation, c'est ce qu'assure le chanteur Noah Veragout.
Je pense que l'amitié, c'était la base de cette communication maintenant très harmonique. Je pense que sans cette amitié, que le groupe comme base et la carrière comme base, ça serait pas possible de faire une communication tellement unie. Parce que c'est quand même une séparation publique, c'est une séparation qui se passe dans les médias et tout ça. Alors c'est important d'avoir une base forte, interpersonnelle. Alors nous avons ça, on a eu toujours ça. Mais maintenant encore, oui, c'est un élément très important dans cette situation.
Vous faites de la musique ensemble depuis votre enfance. Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos chemins se séparer?
Pour moi, c'est triste. C'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un chapitre. Et ça me rend triste, c'est clair. Mais comme je dis avant, l'amitié, si elle reste, c'est le plus important.
Des propos recueillis par Estelle Herman. Malgré le départ de deux de ses membres, Pegasus sort son nouvel album ce vendredi. Et la séparation du groupe sera indirectement au cœur de Twisted Arts Club.
Vous écoutez RFJ, il est 12h25.
Sport.
Loj Sajoie réagit aux rumeurs des médias tessinois qui envoient son staff technique au HC Lugano. Dans un communiqué transmis ce matin, le club jurassien de National League de hockey sur glace rappelle que Julien Vauclair est sous contrat jusqu'au terme de la saison 2025-2026. Le directeur sportif affirme par ailleurs ne pas avoir été contacté par d'autres organisations, précise le club. Quant à l'entraîneur Greg Ireland et son assistant Peterino Melin, le HCA souhaite les laisser se concentrer sur les échéances immédiates en championnat. Il entamera les discussions avec eux concernant la saison prochaine dans les jours à venir. De son côté, le HC Lugano indique aujourd'hui avoir nommé Uwe Krupp au poste d'entraîneur au lendemain du limogeage de Luca Giannadi. Le contrat de l'Allemand de 59 ans court jusqu'au terme de la saison de National League. Uwe Krupp a remporté deux Coupes Stanley en tant que joueur. Il a notamment été sélectionneur de l'équipe d'Allemagne lors de 5 mondiaux et de 2 Jeux Olympiques. Et les années se suivent et se ressemblent pour Stan Wawrinka à Melbourne. Comme en 2023 et en 2024, le joueur de tennis vaudois n'a pas passé le premier tour de l'Open d'Australie. Il est éliminé ce matin par l'Italien Lorenzo Sonego, 6-4, 5-7, 7-5, 7-5 lors de cette première levée du Grand Chelem. Les précisions de Damien Piscopiello.
À Melbourne, Stan Wawrinka a dû rendre les armes après une magnifique bataille de 3h12 face au Transalpin. Le joueur de tennis vaudois pourra toutefois nourrir de gros regrets à l'issue de ce premier tour du tournoi du Grand Chelem australien. Dans le quatrième set, il a galvaudé 3 balles de manche qui lui auraient permis de revenir à 2 partout et de s'offrir un cinquième set de tous les possibles face au Turinois. 11 ans après sa victoire en terre australienne, Stan Wawrinka prend donc la porte dès le premier tour. Il quitte toutefois Melbourne avec plusieurs certitudes.
Reste à savoir si Stan Wawrinka voudra mettre son énergie au service de l'équipe de Suisse. La troupe de Séverin Luthi disputera à la fin du mois une rencontre de Coupe Davis contre l'Espagne à Bienne. Et dernière représentante helvétique engagée à l'Open d'Australie, Belinda Bencic affrontera la néerlandaise Suzanne Lammens au deuxième tour. Le match de la Saint-Galloise est prévu demain à 1h du matin, heure suisse. Charlie Dalin a lui remporté ce matin le Vendée Globe le plus rapide de l'histoire. Le navigateur français de 40 ans a gagné le Tour du Monde à la voile en solitaire en seulement 64 jours et 19 heures. Il pulvérise de plus de 9 jours le record d'Armel Lecléac qui date de 2017. Le couronnement d'un parcours sans faute et d'une belle revanche, Jérémy Pignard.
Sous les rayons du lever du jour à 8h24 au Sable d'Olonne, Charlie Dalin lève les bras puis s'effondre épuisé. 4 ans après avoir déjà franchi cette ligne en premier, mais la victoire était revenue à l'époque à Yannick Bestaven grâce à une bonification au temps pour avoir participé à des opérations de sauvetage. Quelle revanche, quelle victoire, celle d'un Vendée Globe de tous les records. Dès le début de course, Charlie Dalin avale le tronçon Cap de Bonne-Espérance Cap Leuvin entre l'Afrique du Sud et l'Australie en 9 jours et 22 heures, déjà un record. Il avait fait le choix payant de plonger dans une tempête en plein océan Indien pour éviter un détour. C'est pourtant Johan Richomme pour son premier Vendée Globe qui franchit le Cap Horn en Amérique du Sud le premier la veille de Noël. Charlie Dalin reprend la tête quelques jours plus tard et franchira l'Équateur après seulement 56 jours. Le Normand et le Varois se tirent alors la bourre durant toute la remontée de l'Atlantique à une vitesse folle. Je n'ai jamais vécu de telles émotions. C'est la plus belle ligne d'arrivée de toute ma carrière, a lâché Charlie Dalin ce matin. Son ami depuis 20 ans avec qui il a fait ses classes de voile, Johan Richomme est attendu lui en soirée. Ces deux-là ont fait entrer la voile dans une nouvelle dimension.
Merci pour votre écoute et bel après-midi.